Donc c'est notre dernier cours, enfin le dernier cours en tout cas que je ferai moi cette année. Et donc ce cours est consacré à une quatrième étape de ces liaisons dangereuses entre la gauche et la droite. Hein. On avait vu ces chevauchements continuels. Et aujourd'hui, on parlera alors d'un autre phénomène, qui est un phénomène contemporain, puisqu'il a débuté, disons, au début des années 70 surtout, et qu'il se poursuit, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'existence, on pourrait dire, d'un antisémitisme de gauche, hein, on pourrait dire comme ça, et même la participation d'un certain nombre de gens qui se réclament de la pensée socialiste et même de la pensée révolutionnaire dans les mouvements négationnistes qui se sont développés, hein, depuis les années 70. Alors évidemment, quand on parle de négationnisme, on n'est pas très surpris de rencontrer beaucoup de gens d'extrême droite, évidemment, puisque c'est une thématique qui est logiquement, on pourrait dire, d'une certaine façon liée à l'extrême droite, puisque bien évidemment, une partie, pas toute, hein, loin de là, mais une partie de l'extrême droite française a collaboré pendant la dernière guerre. Une deuxième partie de cette même extrême droite, hein, n'a pas collaboré, au contraire, on en retrouve dans beaucoup de mouvements de résistance, notamment le mouvement qui s'appelle Armée Secrète, par exemple, hein, l'AS, dans laquelle il y avait des gens de droite et aussi beaucoup de gens d'extrême droite. Donc on ne peut pas non plus ici, vous voyez, faire très simplement une distinction droite-gauche en ce qui concerne la collaboration. Mais disons qu'il y a une partie importante, alors je ne sais pas si c'est la majorité, etc., c'est très compliqué, bon, faudrait calculer les gens, hein, enfin c'est tout ça est compliqué, enfin il y a une partie malgré tout importante de l'extrême droite qui bien évidemment étant engagée dans la collaboration a tout intérêt évidemment à considérer et à essayer de montrer et à essayer de persuader tout le monde que les camps d'extermination n'ont pas existé et donc que, disons, l'objectif des nazis d'éliminer les juifs européens et les juifs de l'Europe n'est pas une réalité. Mais je ne parlerai pas évidemment de cette extrême droite en tant que telle, puisque ce n'est pas le thème, hein, que l'on a ici. Des gens connaissaient comme Forisson, hein, bien entendu, qui est le plus connu des négationnistes, quelqu'un comme Maurice Bardèche, qui est en fait à l'origine, on pourrait dire, du négationnisme d'extrême droite, hein, Maurice Bardèche qui était le beau-frère de Robert Brasillach, hein, donc qui a été éliminé, qui a été exécuté à la Libération pour collaboration intellectuelle et littéraire, mais extrêmement radicale, et des gens comme Henri Rock, par exemple, hein, qui est un autre, et puis un certain nombre de gens que l'on a vu, y compris des Lyonnais, hein, qui ont été des profs de l'université Lyon 3 qui ont été impliqués dans ces affaires de négationnisme. Mais la question n'est pas ici de traiter du négationnisme en général, mais plutôt du négationnisme de gauche, c'est-à-dire d'un certain nombre de gens relativement importants et qui ont joué surtout un rôle très important parce que ils ont évidemment joué un rôle d'influence très fort dans un certain nombre de groupes de gauche et d'extrême gauche, des gens donc de gauche et d'extrême gauche qui ont repris les mêmes thématiques du négationnisme. Alors on a vu à travers les trois premières interventions que effectivement à certains moments de l'histoire, moment du boulangisme, moment de l'affaire Dreyfus, mais aussi évidemment dans les années 30 et jusque dans les années 40, au moment de la collaboration, qu'un certain nombre de gens de gauche, et même parfois extrêmement, extrêmement à gauche, de socialistes, de communistes, de gens d'extrême gauche, de socialistes révolutionnaires, etc., se sont retrouvés à peu près sur les mêmes problématiques que l'extrême droite française, ou en tout cas que la droite nationaliste, et autour, évidemment, notamment de l'antisémitisme. Alors on a vu très rapidement, je vous rappelle un petit peu ça, pour replacer historiquement ce que l'on va dire aujourd'hui, que les raisons de cette participation, de cette collaboration, on pourrait dire, avec des groupes nationalistes de droite et d'extrême droite de la part de gens de gauche, s'explique par un certain nombre de positions, et notamment cette idée que la gauche officielle, la gauche majoritaire, la gauche qui est dans le Parlement, hein, la gauche, très majoritaire, hein, on pourrait dire, est une gauche qui trahit l'idée révolutionnaire et même l'idée socialiste en faisant du réformisme et en s'alliant avec certains groupements de droite pour finalement éviter la révolution. Hein. C'est l'idée de la trahison de la gauche, hein, qui est une vieille histoire que l'on retrouve encore aujourd'hui. Je rentre pas sur les détails pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, hein. Je dis simplement qu'il y a cette idée fondamentale qu'il y a finalement de gauche, une gauche qui collabore avec le capitalisme, qui collabore avec la bourgeoisie, qui collabore avec un certain nombre de forces conservatrices, qui obtient un certain nombre d'avantages, évidemment, pour la classe ouvrière, par exemple, mais qui, à travers, évidemment, ce jeu parlementaire, contribue à affaiblir, on pourrait dire, l'esprit révolutionnaire, à diminuer les tensions sociales et donc à contribuer à reporter dans le futur l'idée révolutionnaire. Donc cette idée de la révolution contre la démocratie parlementaire, contre une certaine gauche, c'est une idée qui est très proche précisément d'une certaine partie de la droite, qui fait finalement à la droite un peu classique exactement le même reproche. Au lieu de mettre en place un régime autoritaire, hein, de droite, d'extrême droite, voire un régime fasciste, hein, même si à l'époque du boulangisme on parlait pas encore de fascisme, c'était un petit peu quand même l'idée qui était là, une partie de la droite qui reproche à la droite un peu classique et modérée justement de pactiser avec la gauche pour éviter finalement cette révolution. Et on a vu qu'effectivement en France ça avait marché finalement, puisque aucun régime ni révolutionnaire de droite ni révolutionnaire de gauche n'a pu s'imposer en France, si ce n'est le cas de l'État français, mais quand même un petit peu particulier puisque la France est occupée, donc on ne peut pas dire que c'est un gouvernement, même s'il y avait le soutien des Français, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement franchement complètement autonome, on pourrait dire, qui vient un peu spontanément la vie politique française. Il y a évidemment cette question de la guerre et de l'occupation qui joue un rôle très très important. Deuxième élément qui fait que la gauche et la droite peuvent se recouper, c'est cette idée que l'on a deux capitalismes, que l'on a un capitalisme qui serait bon, hein, qui serait un bon capitalisme, le capitalisme, on pourrait dire le petit capitalisme, celui des petites usines, des petits ateliers, où l'ouvrier est encore respecté, où les formes d'exploitation sont faibles, où grâce à son travail l'ouvrier peut subvenir à ses besoins, etc. Et puis le grand capitalisme, hein, qu'il soit d'ailleurs industriel ou financier, hein, ce sont les grandes usines, hein, c'est l'idée que il y a donc un espèce de capitalisme apatride, finalement sans racine, un capitalisme abstrait finalement, hein, qui considère les ouvriers comme des simples éléments, hein, dans la production, qui ne s'intéresse qu'à l'argent, à l'accumulation, etc., qui ne s'intéresse pas aux frontières, qui ne s'intéresse pas aux conditions de vie des ouvriers, etc., etc. Et ce mauvais capitalisme, on a vu, on aura peut-être l'occasion d'expliquer peut-être plus fondamentalement pourquoi il y a cette idée fondamentale, aussi bien dans une partie de la gauche que dans une partie de la droite, il y a cette idée que les juifs, hein, pourquoi les juifs, hein, on y reviendra sans doute, parce que les juifs symbolisent, hein, profondément, hein, ce capitalisme apatride, financier, mais ce grand, hein, capitalisme qui a détruit finalement la tradition, qui a détruit les classes sociales traditionnelles, hein, qui a créé les villes, hein, les villes perçues pendant très longtemps, notamment en France, comme un lieu de perdition, hein, Chalpétain voulant revenir à la campagne, hein, voulant revenir aux vraies valeurs fondamentales, hein, etc., etc. On a ce phénomène, hein, qui est commun à la fois à la droite et à une partie de la droite et une partie de la gauche, de dire que effectivement il y a un bon et un mauvais capitalisme, hein, et d'ailleurs contrairement à ce que l'on dit souvent, aussi bien sous l'Italie fasciste que sous l'Espagne franquiste que sous l'Allemagne nazie, il n'y a pas de rupture véritable avec le capitalisme, hein. Le capitalisme est toujours là, les hommes d'affaires sont toujours là, mais on va essayer, ou en tout cas on va prétendre essayer de construire un capitalisme national, justement, qui ne serait pas un capitalisme laissé dans la main de ces personnages apatrides, sans foi ni loi, que seraient les juifs et leurs disons leurs alliés, pour dire les choses simplement. Troisième élément, hein, qui est, je crois, important et qui explique pourquoi il y a conjonction parfois entre la droite et la gauche, c'est la question de la nation, hein, qui est une question qui est relativement importante et que dans tous les pays européens on rencontre, hein, à partir du 19e siècle, c'est extrêmement important. Alors, il y a évidemment tout au long du 19e siècle et du 20e siècle des idées universelles qui dépassent l'idée nationale, hein, et bien évidemment, par exemple, l'idée de citoyenneté, hein, l'idée de citoyenneté fondamentalement est une idée universelle, hein. Être citoyen, c'est finalement laisser tomber ses relations personnelles, locales, etc., pour grandir, on pourrait dire, et penser d'une manière globale, hein, universelle, en pensant à l'intérêt général, etc., etc. Sauf que la question évidemment fondamentale, c'est que jusqu'à aujourd'hui, alors peut-être que l'on verra avec l'Europe, la construction de l'Europe, quelque chose d'autre, mais pour l'instant, cette idée de citoyenneté universelle, elle est sans arrêt, on la remet dans le berceau national, c'est-à-dire que nulle part on est un citoyen universel, on est un citoyen d'un pays très précisément, hein. On est un citoyen d'un État extrêmement précis, donc c'est universel, hein, est toujours rabattu sur des frontières quand même relativement précises. Ce qui fait que quand on veut faire de la politique, bah, finalement, on a beau avoir des grandes idées globales, des grandes idées générales, anti-impérialistes, etc., etc., on est rabattu sur la question nationale. Hein. Et cette question nationale, on la voit, par exemple, dans le mouvement communiste international, hein, on la voit en URSS à une certaine époque, on la voit en Chine, etc., etc. Il y a, dans ces pays communistes, l'idée que il y a une humanité globale, hein, l'international, hein, mais qu'en même temps, finalement, ce socialisme, on le fait dans un pays, finalement, et dans un seul pays, et que les liens qui existent entre nation et socialisme, sont des liens qui sont complexes. C'est le socialisme dans un seul pays, finalement, hein. On ne connaît pas de cas où il y a eu socialisme dans plus d'un pays, hein. On pourrait dire à la fois, et même, on peut dire que ces pays étaient en tension extrêmement forte, hein, la Chine et l'URSS, mais aussi à l'intérieur du bloc de l'Est, hein. On sait aujourd'hui maintenant qu'il y avait des tensions très fortes, hein, entre les différents pays et l'URSS. Hein, autour des questions nationales, précisément. Donc, on voit bien que cette question de l'universalisme, hein, socialiste, par exemple, est toujours, malgré tout, envoyée à une question nationale. Et donc, c'est pas étonnant que, parfois, dans des questions de crise, finalement, les gens qui sont attachés à l'idée nationale, ils se disent que, finalement, ce qui est important, c'est pas tellement, on pourrait dire, l'universalisme du socialisme, mais c'est des mesures concrètes qui sont liées à un État précis dans lequel on se trouve. À cela, hein, je vous rappelle, est lié la grande déception des années, la fin du 19e siècle, on pourrait dire jusque dans les années 20 et dans les années 30, hein, la fin du 19e siècle, des années 20 aux années 30, où les socialistes attendaient la révolution pour le lendemain. Le grand soir, hein, c'était vraiment une croyance très très forte à cette époque-là parmi le monde ouvrier. La grève générale, l'idée de grève générale et de prise du pouvoir des ouvriers, c'est quelque chose que l'on envisageait pour les mois à venir, pour les quelques années à venir. Et puis, la Première Guerre mondiale a détruit un peu ce grand espoir. Il y a eu une relance dans les années 20, dans les années 30, mais très rapidement, là aussi, il y a eu le Staline et le socialisme dans un seul pays. On a vu que, après, il y a eu évidemment la guerre qui a redonné vie un peu à la nation plus qu'au socialisme. Et finalement, il y a une grande déception par rapport au prolétariat. Le socialisme qui se base sur l'idée que le mouvement ouvrier, c'est le mouvement qui va pouvoir faire la révolution, devient de moins en moins crédible, on peut dire, à partir de la Première Guerre mondiale. Il y a une certaine relance, mais ensuite aussi, il y a une désillusion assez vite. Des années 50, il y a des gens à l'intérieur même du Parti communiste français qui disent, non, finalement, le prolétariat, on voit bien qu'il n'est pas capable de faire la révolution. Donc là aussi, ça va dans le sens, on pourrait dire, d'un retour à une conception plus nationale, finalement, des choses, par rapport aux grandes ambitions internationales que l'on pouvait avoir auparavant. Voilà, pour un petit peu vous donner, rappeler un petit peu les données un petit peu du problème. On va voir que ces problématiques-là vont ressurgir à travers la question de comment aborder le nazisme et comment aborder la question des camps d'extermination après 1945. Première étape et premier personnage extrêmement important, on peut dire que c'est le père du révisionnisme et du négationnisme, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Racinier, dont vous avez peut-être entendu parler, il y a une bibliographie extrêmement développée. C'est un personnage, ce Paul Racinier, extrêmement curieux, qui deviendra célèbre en fait après sa mort, il mort en 1967, qui est un peu connu, mais on verra pourquoi il n'est pas si connu que ça dans les années 40, 50, 60, mais il va devenir vraiment très très connu quand Forisson, quand une partie de l'extrême gauche, tout un tas de gens vont reparler de ces affaires-là, on va ressortir les livres de ce Paul Racinier. Alors Paul Racinier, c'est un personnage assez extraordinaire, puisqu'il est né en 1906, c'est le fils d'un militant socialiste, lui-même il entre au Parti communiste à 18 ans, puis donc au tout début, du Parti communiste français, rompt avec le Parti communiste et il rentre avec la célèbre SFIO, il devient même secrétaire de la Fédération de Belfort, de la SFIO. Il est de la tendance pacifiste, il est contre la guerre, il sera toujours un ardent pacifiste. Contrairement aussi à un certain nombre de pacifistes qui vont collaborer eux aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas trop non plus, mais qui vont collaborer aussi au régime pétainiste, de la même façon qu'il y a une partie de l'extrême droite qui aurait dû se retrouver chez Pétain et qui se retrouve dans la résistance, un certain nombre de socialistes pacifiques qui auraient dû se retrouver dans la résistance, logiquement, se sont retrouvés chez Pétain, précisément parce que pour eux, le pacifisme était absolument essentiel, et c'est la défense de la paix qui est essentielle, donc c'était des Munichois, etc., etc. Ils le sont restés jusqu'au bout, on peut le dire. Lui, pas du tout. Lui, c'est un résistant. C'est un résistant, c'est pas un gros résistant, c'est pas un chef de réseau, etc. Mais enfin, il est quand même arrêté par la Gestapo fin 43. C'est pas très amusant. Il est envoyé au camp de concentration de Buchenwald et de Dora. C'est pas non plus très très rigolo. Il est libéré en 45 et il est invalide à 100%. D'ailleurs, il mourra assez jeune, en 1967. On sait pas exactement d'ailleurs. J'ai pas réussi à savoir exactement ce qu'il avait, il avait eu comme problème de santé, mais enfin c'est manifestement lié à son séjour dans les camps de la déportation. Il est député socialiste en 1946 pendant quelques mois. Vous savez, ces années au milieu des années 40, on votait beaucoup. Hein. Il y avait la constituante, la deuxième constituante, puis il y avait de nouveau des élections. Alors on pouvait être comme lui député pendant quelques mois simplement, hein, puisque les gens changeaient d'avis hein, assez vite à cette époque-là. En 1946, très déçu par son échec, il quitte Belfort. Il vivra dans différents endroits, à Nice, à Nières, etc. Et il va commencer à écrire. Alors il va commencer à écrire un livre en 1949 qui s'appelle « Passage de la ligne » et qui est destiné à raconter sa propre histoire, la déportation. Donc c'est un des livres de l'époque, hein, ils sont assez nombreux, où il est déporté, hein, et explique ce qui se passait dans les camps de concentration. Alors, hein, on reviendra un tout petit peu sur cet élément-là, mais il faut bien voir que l'époque, il y a beaucoup de livres sur les camps de déportation, mais il n'y a pratiquement pas de livres sur les camps d'extermination. Hein. Ça, c'est un point dont il ne faut pas oublier et qui joue, je crois, un rôle important à cette époque-là. Alors, il écrit un deuxième livre en 1950 qui s'appelle « Le mensonge d'Ulysse » et qui est un livre qui est assez recensé et qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est une critique en fait de la littérature sur la déportation. C'est-à-dire, il critique en fait les gens avec qui, enfin, il était ou hein, qui ont partagé sa destinée de déporter. Il est très critique parce que à l'époque, les livres sur la déportation sont assez, pro-communiste, montrant que le Parti communiste à l'intérieur des camps de déportation continuait un genre rôle de résistance, etc., etc. Et lui, il dit non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, les communistes jouaient dans la gestion des camps de déportation un rôle hein, de capot, on pourrait dire, qui était un rôle parfois ambigu, hein, parfois pas très clair, et effectivement ça a été plus ou moins confirmé dans certains cas par un certain nombre de témoignages par la suite. Ça a été évidemment, ça a intéressé beaucoup de gens parce qu'évidemment tous les gens anticommunistes, hein, à l'époque évidemment le Parti communiste avait le vent en poupe, hein, évidemment c'est le parti des fusillés, etc., étaient assez contents que quelqu'un prenne la plume pour dire que finalement les communistes ne se sont pas si bien comportés que ça dans les camps de déportation. Alors il ne parle pas du tout des chambres à gaz ou d'extermination. Là-dedans, il ne nie pas en fait du tout l'existence. Non, il ne dit pas non plus qu'elles n'ont pas existé. Il ne dit pas qu'elles n'ont pas existé, mais il critique le nombre de gens, de juifs qui ont été tués hein, pendant cette période. Donc c'est relativement flou. On peut pas dire que c'est un livre qui remet en cause, disons, l'idée d'un plan d'extermination, disons, des juifs d'Europe, mais c'est pas quelqu'un non plus qui écrit noir sur blanc des choses sur cette extermination. Et puis peu à peu, chez ce personnage, il y a une radicalisation. Hein. Peu à peu, il va écrire beaucoup, il va écrire des articles, il va écrire des livres, etc. etc. Peu à peu, il affirme que en fait, il n'y a absolument pas eu de grand massacre à grande échelle des Juifs d'Europe, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, qu'il n'y a pas eu plus de Juifs morts que de Polonais, de Hongrois, de Français ou des gens, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité, on pourrait dire, dans l'action des nazis vis-à-vis des Juifs. Et on retrouve d'ailleurs absolument tous les thèmes que l'on retrouvera hein, chez Forisson, chez Rock, etc. Exactement les mêmes thèmes. C'est-à-dire que les chiffres donnés sont complètement faux, qu'on raconte absolument n'importe quoi, que les Juifs, soi-disant qu'ils sont morts, en fait, ils vivent. Parfois, il dit qu'ils vivent en Asie quelque part, d'autres fois qu'ils ont finalement réussi à aller aux États-Unis, etc., etc. Enfin, on retrouve tous les éléments de critique, par exemple, des témoignages. En disant tous les témoignages que l'on a là-dessus, c'est des témoignages qui ne sont pas fiables, parce que soit ce sont des Allemands qui ont participé donc à ses actions, et donc évidemment ils disent pas la vérité parce que comme ils ont perdu la guerre, ils ont intérêt à avouer même des crimes qu'ils auraient pas commis, hein, ils ont intérêt à être gentils avec les vainqueurs. Il y a aussi des thèmes disant voilà, bah les témoignages de gens qui ont vécu là-dedans, bah c'est pas possible par définition, puisque si ils ont vécu l'extermination, ils sont morts, hein. Donc les gens qu'on nous présente comme des gens qui ont échappé au camp de la mort, c'est pas possible, etc. Enfin, toute la thématique, hein, je n'ai pas le temps de développer ici, mais de remise en cause des témoignages, est déjà chez Racinier. Et enfin, peu à peu, il devient même carrément antisémite, c'est-à-dire que dans les deux derniers livres qu'il va écrire, Le drame des Juifs européens et des responsables de la Seconde Guerre mondiale, là très clairement, il explique notamment, c'est une thématique que l'on va revoir aussi plus tard, que la Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est la faute des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont, en fait, déclaré la guerre aux nazis. Hein. Il y avait déjà un lobby sioniste juif, etc., extrêmement puissant avant la guerre, dit-il, et finalement, c'est eux, par leur action, qui a obligé finalement Hitler à déclarer la guerre. Donc c'est une espèce de radicalisation, hein, de plus en plus forte, de ce Paul Racinier. Ce qui est alors assez fascinant quand on regarde ce personnage, hein, et là-dessus je vous donnerai une bibliographie, on verra une bibliographie plutôt sur le site, mais notamment le livre j'ai oublié son prénom, ça s'appelle Igounet, c'est une dame, et j'ai oublié son prénom, peu importe, qui a fait une thèse spécifiquement sur ces questions-là. Ce qui est assez fascinant, c'est que Racinier arrive entre 1950 et 1967 à la fois à écrire dans des journaux et à être soutenu par l'extrême droite, et à écrire dans les journaux et à être soutenu par des journaux de gauche, hein, et même des maisons d'édition de gauche. Je vous donne quelques exemples. Il se rapproche assez vite, en fait, avec Maurice Bardèche, dont je vous parlais tout à l'heure, le beau-frère de Brasillac, et il écrit dans des journaux comme Rivarol, hein, qui existe toujours, hein, un autre, je crois qu'il n'existe plus, qui s'appelle Défense de l'Occident, et qui sont très clairement, hein, des journaux d'extrême droite. Il va faire en Allemagne des conférences auprès d'auditoires qui sont franchement nazis, hein, enfin des nazis plutôt discrets évidemment, puisque bon, évidemment à l'époque il y a quand même, bon, même encore aujourd'hui quand même, il y a quand même une certaine sensibilité en Allemagne à ces questions-là, mais les gens se regroupent malgré tout, il y a des groupes informels, hein, il va donner des leçons, des cours. En même temps, il écrit dans la presse de gauche. Alors il sera effectivement exclu en 1951 de la SFIO, mais il va continuer à avoir des amis dans la SFIO. Il va écrire dans la presse pacifiste, notamment un journal qui s'appelle La Voix de la Paix, qui est un journal relativement important dans les années 50 et 60, dans les journaux libre-penseurs, les journaux libertaires aussi, notamment dans Le Monde libertaire, hein, il publie assez régulièrement, et il est ami avec des gens comme Bolaton, Baucher, Joyeux, bon, c'est peut-être des noms que vous ne connaissez pas, mais c'est des noms très importants pour l'histoire du mouvement libertaire. Hein. Ce sont les, entre guillemets, les chefs, on pourrait dire, des années des mouvements libertaires français dans les années 50-70. Il est membre de la Fédération anarchiste. Il donne des cours sur l'anarchie, la politique, etc. à travers la France. Donc, si vous voulez, en France, il va donner des cours à la Fédération anarchiste, et en Allemagne, il va donner des cours aux nazis. Hein. C'est pas curieux. Et ça va continuer. Il a des amis aussi, beaucoup d'amis dans le mouvement syndical, notamment dans le syndicat FO, par exemple. Hein. Vous savez, un certain nombre d'anarcho-syndicalistes, hein, qui étaient membres de FO. Et tout cela, par exemple, malgré les protestations des anarchistes allemands, qui, eux, connaissaient l'existence d'un Paul Racinier qui venait donner des cours aux nazis allemands, et qui en même temps était, enfin, il se posait la question de savoir si c'est le même Paul Racinier qui était en même temps à la FA, si vous voulez. Les Allemands avaient du mal à comprendre. Alors bon, ils disaient peut-être Paul Racinier, c'est très courant comme nom. Donc il y a plein de Paul Racinier en France, et donc voilà, il y en a qui sont nazis, puis il y en a qui sont. Bon, tout ça est très bien documenté. Hein, tout ça est très très bien connu aujourd'hui grâce aux travaux et du livre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il sera en fait, il aura des problèmes avec la justice quand même dans les années 60. Hein. Un certain nombre, c'est ça qui est assez intéressant, c'est des gens, en fait, des fédérations d'anciens combattants et de résistants qui vont porter plainte contre Racinier. Mais ce n'est pas véritablement autour, finalement, de la question vraiment de la négation des camps d'extermination, que se font vraiment les plaintes. Pourquoi ? Bah parce que, je vais le redire en deux minutes tout à l'heure, mais à l'époque, on ne fait pas tellement la différence entre camps d'extermination et camps de concentration. Hein. Il faut se souvenir, quand regarder des documentaires des années 50, même des années 60, sur la déportation, tout ça est très mélangé. Bon, il y a des gens qui meurent, quoi, et puis on les brûle. Alors, voilà, il y a des Juifs, mais aussi il y a des Polonais, des résistants, il y a des Russes, enfin. Mais tout ça n'est pas très. Voilà, il y a une espèce de flou là-dessus qui est assez important. Et donc, ce qui choque, finalement, c'est moins quand même ces histoires de négation du camp d'extermination. C'est pour ça qu'on ne considère pas qu'il est négationniste à l'époque, hein, c'est intéressant, mais plutôt la façon dont il parle, on pourrait dire, de la Deuxième Guerre mondiale, la façon dont il parle de la déportation et qui tend finalement plus ou moins à exonérer le nazisme, hein, de toute responsabilité finalement dans cette Deuxième Guerre mondiale. C'est ça en fait, le révisionnisme qui lui est reproché finalement, c'est de dire que finalement les nazis, les Américains, les Anglais, les Juifs, tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est des gens qui voulaient la guerre, qui se sont tapés dessus, c'est affreux, etc., etc. Et il faut arrêter avec tout ça, mais c'est pas véritablement les questions liées au génocide ou à ces questions de camps d'extermination qui sont absolument... Donc quand il a des problèmes avec la justice, il a aussi d'ailleurs des problèmes financiers, bon, assez troubles avec la Fédération anarchiste, il aurait pris un peu d'argent dans les caisses, enfin, c'est pas très clair. Hein. Il commence à avoir des sérieux problèmes. Alors là, on commence à un petit peu le critiquer, à essayer de le mettre dehors. Mais il a des solides amis. Hein. Il a des solides amis. Et Maurice Joyeux, qui est vraiment un personnage très important dans le mouvement libertaire, sera toujours, et même jusqu'en 1987, il va faire un texte de souvenir de Paul Racinier en 1987, va toujours le soutenir. Et il restera jusqu'à la fin de sa mort membre d'une organisation qui s'appelle je crois l'Association ouvrière anarchiste, je crois, hein, un petit groupuscule anarchiste, mais donc il n'est pas complètement exclu, disons, de ce milieu-là. Et le président de l'Union départementale locale, Force ouvrière, assistera et fera un discours lors de son enterrement. Donc on voit, si vous voulez, cette espèce de mélange à cette époque-là, hein, de choses qui sont pas très claires entre la gauche et la droite, et on voit ce personnage vraiment se balader sans aucun problème entre ces deux extrêmes. Alors pourquoi ce mélange ? Pourquoi ce mélange ? Parce que, d'abord, il y a toujours quand même un certain antisémitisme anticapitaliste dans une certaine partie de la gauche. Hein. C'est-à-dire que l'identification du juif au mauvais capitaliste, c'est toujours quand même des idées qui flottent, dont on ne parle pas comme ça dans les journaux. On n'est plus dans les années 30. Hein. Il s'est passé quand même des choses. Mais dans des discussions privées, etc., ça ne choque personne de dire que finalement, le capitaliste, la crise capitaliste, l'exploitation des ouvriers, finalement, c'est quand même surtout... la faute des juifs, hein. C'est quand même surtout eux, même s'il n'y a pas que des juifs dans le coup, il y a quand même cet élément-là qui est très important. Alors évidemment, la création de l'État d'Israël aussi, évidemment, a aussi un peu accentué cet élément-là, hein, parce que, voilà, il y a un nouvel État, il y a quand même des tensions, hein, avec les Palestiniens dès le départ, etc. Donc, là aussi, ça ne fait rien pour, disons, aller dans le sens, on pourrait dire, d'une assimilation, on pourrait dire, hein, je dirais, du judaïsme à une religion comme une autre, hein, voilà, ça accentue encore, en tout cas ça ne permet pas de revenir complètement sur ce que l'on a connu avant-guerre. Le deuxième élément extrêmement important pour la gauche, c'est l'anticommunisme. Pour la gauche anticommuniste, en tout cas, hein, et elle est nombreuse, hein, la gauche anticommuniste, hein, c'est pas simplement l'extrême gauche libertaire dont je parlais tout à l'heure, les pacifistes, c'est aussi la SFIO, bien entendu, c'est aussi tous les gens qui sont de gauche mais qui refusent, hein, le régime communiste. Et pour les anticommunistes, évidemment, Paul Racinier est un personnage important. Pourquoi ? Bah parce que finalement il explique les camps communistes ou les camps nazis, c'est pareil. Hein ? C'est-à-dire que on en fait beaucoup autour des camps nazis, les déportations, etc. Mais les camps staliniens, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Les années 50, c'est des époques, les 50, les années 60, c'est l'époque où il y a une remise en cause, hein, chez plein de gens qui ne trempent pas du tout dans ces affaires, il y a cette idée que on doit aussi, hein, s'attacher à critiquer, hein, et à révéler ce qui se passe dans les camps staliniens. Et voilà quelqu'un qui vous dit que finalement les camps nazis et les camps staliniens, finalement c'est à peu près la même chose, hein. C'est des camps où on met les gens. Alors d'un côté c'est les ennemis du régime, d'autre côté c'est des juifs, hein. Et puis des ennemis du régime aussi quand même, hein. On met tous ces gens-là, on les fait travailler, puis ben ils meurent. Ouais, ben c'est normal qu'ils meurent puisque ils sont exploités, il y a des maladies, ils sont mal nourris, voilà, etc. Mais finalement, sur ce plan-là, les nazis n'ont rien inventé, hein, par rapport aux communistes. Donc ça, c'est un élément, je crois, qui joue très fortement dans les années 50 et dans les années 60, et même sans doute jusque dans les années 70, voire presque jusqu'au bout, hein, de l'expérience soviétique. Le deuxième élément, c'est le pacifisme. Hein, le pacifisme, qui est une idée qui est très développée dans les années 50 et dans les années 60 et 70 dans toute la gauche française, le pacifisme consiste finalement, dans son extrême, hein, à ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Hein, de dire finalement la guerre c'est horrible, que ça soit les Américains, les Turcs, les Malais ou je sais pas quoi, peu importe, on s'en fiche, hein, tout le monde est fautif dans cette histoire là donc quelqu'un qui va vous expliquer que finalement c'est pas pire d'un côté que de l'autre, c'est un argument qui peut être accepté par les pacifistes. Un autre élément, c'est la théorie du complot, hein. Dans cette gauche non communiste, on vit dans une époque donc justement de tension, hein, très forte, parce que il y a deux camps, hein, on pourrait dire, dans le monde, il y a les communistes et puis il y a les pro-américains, hein. Or tous ces gens qui sont ni communistes ni pro-américains sont dans des situations à la fois de marginalité et de dangerosité, je dirais, au niveau intellectuel, etc. Donc ils ont des tendances, évidemment, en plus, bon, les années 50, 60, 70, c'est des années de paranoïa quand même, hein, aussi, avec global, on pourrait dire, avec l'espionnage, avec etc., etc. Tout le monde est un peu, hein, parano par rapport à toutes ces choses-là. Et là, cet élément-là aussi joue un rôle, je crois, important. Le dernier élément peut-être, c'est quelque chose qui joue alors très fortement dans une gauche assez radicale, c'est l'idée que plus on est radicaux, c'est-à-dire plus on dit des choses qui ne sont pas acceptables par les autres, et plus on est radical, et plus donc on est dangereux pour le système. C'est cette idée que l'on va retrouver précisément dans un certain nombre de groupes qui vont soutenir Faurisson, Rock, etc., un petit peu plus tard. Cette idée de radicalité. Alors, avant de passer au deuxième temps un peu, je voudrais juste donner quelques indications, j'en ai donné sur l'époque. Il faut savoir donc que les années 50 et les années 60, et même jusqu'aux années 70, hein, on peut dire, ce sont des années où on parle extrêmement peu des camps d'extermination, hein, où on parle essentiellement de la déportation de manière générale, et où on essaye, pratiquement dans tous les milieux politiques, de couvrir en fait cette époque, une espèce de voile un peu discret sur toutes ces affaires-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'évacuer l'époque où les Français tiraient sur des Français, où les Français faisaient du mal aux Français, etc., etc. Bon, 45, ça y est, on a remis les pendules à l'heure. De nouveau, faut arrêter avec tout ça. Il faut rappeler que après 1947-1948, on a laissé tranquille tous les nazis, même des nazis extrêmement importants. Tous les gens qui avaient collaboré, ces gens-là, on les oubliait. Hein. Rappelez-vous le cas de Paul Touvier qui a quand même été condamné à mort par contumace, on l'a absolument pas recherché, il était à deux pas de gendarmerie et on aurait pu le prendre chez lui sans aucun problème, mais tout ça, bon, on n'en parlait plus. Hein. Rappelons-nous aussi, si vous avez l'occasion sur YouTube, regardez ça. Je me souviens plus exactement de la date, mais ça doit être en 72, quelque chose comme ça. Une conférence de presse de Pompidou à propos de Touvier, puisqu'il avait décidé de gracier Touvier en expliquant, écoutez, cassez-moi pas les pieds avec tout ça. C'est fini, maintenant on est tous français, on arrête, etc., etc. Donc tout un courant, hein, sans parler bon d'autres gens aussi à gauche, hein, François Mitterrand aussi avec quelques amitiés un petit peu curieuses, hein, on l'a su par la suite, mais justement on l'a su par la suite parce que cette époque-là, ça n'intéressait pas grand monde, hein, les histoires d'extermination, de Shoah, de génocide, de exactement ce qui se passait à cette époque-là, ça n'existe pas. Et il faut noter un point aussi extrêmement important, c'est que la recherche académique sur les camps d'extermination et de manière générale l'élimination, on peut dire, des juifs européens, était extrêmement peu développée. Très peu de gens travaillaient sur ces questions. Hein, très peu de gens allaient travailler dans les archives pour essayer de comprendre, on peut dire, ce phénomène, d'essayer d'avoir des indications exactement comment ça fonctionnait, comment c'était organisé, etc., etc. Alors on aura plus de choses lors du procès de Eichmann des années 60, hein, puisque là il va nous raconter un certain nombre de choses, etc. Mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent. Et on dit, et on fait un peu n'importe quoi. Hein. Par exemple, dans certains camps, on a restauré une chambre à gaz qui n'avait jamais existé. Hein. Parce que la chambre à gaz faisait d'une certaine façon partie du paysage. Quoi. On considérait qu'il devait y avoir une chambre à gaz dans tous les camps ou presque. Bon, maintenant on sait où c'est précisément. Je crois qu'il y avait 6 camps, je crois précisément, où il y avait des chambres à gaz, etc., etc. Bon, tout ça était peu connu parce que finalement, c'était pas ça très véritablement l'important, hein. Et donc encore une fois les nazis en Allemagne, hein, des chefs de pas des chefs de camp, mais enfin des gens qui étaient à des niveaux très importants quand même dans des camps, etc., n'étaient pas du tout inquiétés. Ils poursuivaient leurs affaires, ils étaient devenus de riches hommes d'affaires, etc. Il y a fallu avoir les Klarsfeld, hein, qui vont relancer les affaires, etc., etc. dans les années 70 pour qu'on ait véritablement de nouveau des interrogations et un retour sur une réflexion sur la responsabilité des gens, hein, d'un certain nombre de personnes là-dedans, y compris les Français avec Barbie, Touvier, etc., etc. Mais on mettra encore une fois beaucoup de temps, on mettra 10 ans, je crois, pour retrouver Touvier, hein, etc., etc. Donc il faut se remettre un peu aussi, hein, dans cette époque-là. Alors deuxième étape sur laquelle je passerai rapidement parce que ça c'est quelque chose peut-être qui est un peu plus connu, c'est le tournant de la fin des années 60. C'est-à-dire que le tournant de la fin des années 60, on voit un autre type, on pourrait dire, d'antisémitisme apparaître à gauche. C'est un antisémitisme qui est lié à l'antisionisme. Donc, et qui va être très important ensuite chez la deuxième, troisième génération des négationnistes et des révisionnistes. C'est évidemment la guerre de 1967. C'est donc le début, enfin le début, ça avait déjà un peu commencé, mais là, c'est encore plus radical, un peu du conflit israélo-palestinien, etc., etc. Et on voit très bien que dans la gauche, il y a un antisionisme extrêmement fort qui parfois, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être antisioniste et qu'on est obligatoirement antisémite quand on est antisioniste, la preuve c'est qu'il y a des juifs antisionistes, ou en tout cas des juifs qui critiquent la politique d'Israël aujourd'hui, donc on peut très bien être à la fois non seulement pas antisémite, mais en plus juif, citoyen par exemple d'Israël, et pas être d'accord avec la politique actuelle, donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, mais malgré tout, on voit très bien que dans un certain nombre de milieux, évidemment, de l'antisionisme à l'antisémitisme, il n'y a qu'un pas qui est assez facilement qui se développe assez facilement. Alors, on voit aussi cette ambiguïté dans la position des partis de gauche aussi. Les partis de gauche sont généralement pro-palestiniens. En tout cas dans les années 60, 70, etc., parti communiste aussi, et pro-palestinien. Le général de Gaulle, avec ses célèbres déclarations qu'on peut retrouver aussi sur YouTube, sur, je ne me souviens plus exactement les termes, mais ce peuple arrogant, je ne sais plus quoi, etc., etc. Bon, alors là c'est l'antisionisme, mais vous voyez, on dit le peuple, peuple juif, donc c'est pas les citoyens israéliens à la limite que l'on pourrait tenir pour responsable d'une certaine politique, mais c'est le peuple juif, donc vous voyez, il y a une espèce de glissement, etc., qui fait, donc toujours cette idée que, vous voyez, les juifs, ils sont pas très clairs, ils sont israéliens, mais en même temps, ils sont aussi, voilà, en France, etc., etc., etc. Donc toute cette rhétorique dans la gauche est une rhétorique qui se développe, et qui ne va plus s'arrêter de se développer jusqu'à aujourd'hui. Troisième étape, moins connue peut-être, mais tout aussi intéressante, c'est l'apparition au début des années 70 dans certains milieux d'extrême gauche de positions qui sont alors là totalement et franchement négationnistes parce qu'il y a des situationnistes, donc c'est pour ça que je dis ça, et carrément révisionnistes, puisque ces gens-là vont très clairement collaborer avec Forisson, collaborer avec Rock, collaborer avec les révisionnistes allemands, anglais, etc., puisque dans beaucoup de pays, en fait, on a des... La particularité de la France, c'est précisément que la gauche va être va entrer, une partie de la gauche, en tout cas ou de l'extrême gauche, va entrer en relation avec ces gens et les soutenir très fortement et même jouer un rôle important dans la diffusion de leur théorie. Parce que je dis, franchement, parce que partout ailleurs, je crois, enfin je ne connais pas tous les pays du monde, mais apparemment partout ailleurs, le révisionnisme et le négationnisme, le fait de dire qu'il n'y a pas eu d'extermination systématique des juifs d'Europe et de mise en place d'un système d'extermination avec des chambres à gaz, etc., etc., cette remise en cause est en général quasiment toujours l'apanage, officiellement en tout cas dans les textes, dans les trucs comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens dans le privé qui peuvent dans d'autres milieux tenir ce genre de propos, mais en tout cas dans la diffusion et dans l'expression publique, ce sont des textes d'extrême droite, très clairement. Dans tous les pays, ce sont des gens d'extrême droite qui relaie et développe ses positions négationnistes. Il peut y avoir, précisément, comme je l'ai tout à l'heure, dans les milieux de gauche antisionisme, un certain antisémitisme, mais en général, on ne va pas jusqu'à la remise en cause de l'extermination, en tout cas publiquement. Je dirais, dans des textes, etc., il n'y a pas une théorisation, on pourrait dire, de la remise en cause de l'extermination. En France, par contre, il y a eu, dans certains milieux, libertaires, conseillistes, situationnistes, etc. Je ne dis pas tous, hein, loin de là, hein, on dit l'ultra-gauche en général, mais ce n'est pas du tout l'ultra-gauche en général, c'est une partie de ce que l'on appelle l'ultra-gauche, donc on peut dire l'extrême-gauche qui n'est ni trotskiste, ni maoïste, qui a repris ses thèses. Et notamment, on peut citer deux éléments de ces liaisons dangereuses entre la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est un texte qui est en fait qui date des années 50, mais qui est paru en français dans les années au début des années 70, qui est un texte qui est inspiré par un personnage qui est un peu connu, mais qui est un personnage important, notamment en Italie, qui s'appelle Amadeo Bordiga, et qui est en fait tout simplement un des créateurs et un des chefs du Parti communiste italien. Qui a rompu ensuite, qui a créé sa propre organisation, etc. S'appuyant sur les thèses de Bordiga, un texte est apparu au début des années 70 qui s'appelle Auschwitz ou le grand alibi, qui n'est pas complètement un texte qui remet en cause, disons, les camps d'extermination, etc., mais qui suggère un certain nombre de choses qui seront ensuite reprises par précisément ces négationnistes de la deuxième et la troisième génération. Que dit ce texte? Il dit premièrement que si on veut faire la révolution, il faut s'opposer à l'antifascisme. C'est-à-dire que l'antifascisme est un faux consensus. C'est-à-dire cette idée que finalement, à droite comme à gauche, on doit lutter contre le fascisme, contre le nazisme et tout ça, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas la révolution, parce que ça crée un espèce d'alibi. Pourquoi il n'y a pas la révolution? Parce que ça risque de faire le jeu de l'extrême droite, du fascisme, etc., etc. Donc il faut qu'il y a un certain nombre de choses communes entre la gauche et la droite, et cette chose commune, c'est quoi? C'est l'horreur hitlérienne. C'est-à-dire que pour ces gens, le consensus mou, on pourrait dire, dans la société capitaliste des années 70, c'est finalement dû à cette idée que par antifascisme, on peut s'entendre avec un certain nombre de gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Mais donc du coup, évidemment, on ne peut pas se révolter contre un certain nombre de conditions sociales. Deuxième élément, ils expliquent que d'un point de vue marxiste, la solution finale, en tout cas telle qu'elle est mise en place, disons, dans des camps qui seraient organisés, une planification des meurtres de juifs, etc., d'un point de vue marxiste, c'est une idée qui est très difficile à admettre. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue marxiste, le fondement de tout système économique, c'est l'exploitation. Or, dans les camps d'extermination, il ne peut pas y avoir d'exploitation du travail, puisqu'on tue les gens. C'est même le contraire. C'est un processus de dévalorisation, finalement, parce qu'au lieu d'utiliser le travail, on détruit les gens qui pourraient créer de la valeur. Et d'un point de vue marxiste, c'est absolument impossible. Il ne peut pas y avoir de système d'exploitation, de système économique, qui n'est pas basé sur l'exploitation du travail. Donc c'est très curieux et on comprend absolument pas comment on pourrait avoir un système d'extermination. Ils disent pas que c'est totalement impossible, mais enfin ils disent que d'un point là on sort totalement de la raison, et comme la raison quand même c'est ce qui mène le monde, d'un point de vue marxiste, ça paraît quand même très 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 différent. Donc pour eux, le capitalisme, le nazisme, c'est une forme de capitalisme qui n'est pas pire finalement que les autres. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'essentiel? On a mis des gens dans des camps, on les a fait travailler, sans doute on n'aimait pas trop les juifs, donc on en a exécuté un certain nombre. On en a exécuté un certain nombre, pourquoi? Parce que dans le développement du capitalisme, comme on le sait, la petite bourgeoisie devient à un moment donné un frein au développement. Hein, les petits commerçants, les petits artisans, tous ces gens-là doivent disparaître. Alors soit ils disparaissent naturellement par le développement des grands magasins, etc., comme dans les années 50 et 60 en France, soit on les fait disparaître. Et la seule raison qu'on puisse avoir une extermination particulière en direction des Juifs, c'est tout simplement parce que on veut éliminer une partie de la petite bourgeoisie. Donc finalement, la question qu'il soit juif ou pas juif n'est pas très importante. Il se trouve qu'il y a plus de petits bourgeois chez les juifs que chez les autres, ce qui est approuvé d'ailleurs, statistiquement d'ailleurs, en tout cas avant-guerre. Hein, aujourd'hui je ne sais pas, mais en tout cas avant-guerre, c'est très difficile à mon avis à soutenir cette idée. Voilà. Donc voilà un petit peu ce genre de texte hein, qui commence à jouer un rôle dans l'extrême. En disant, finalement, c'est quand même curieux ce truc d'extermination. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Hein. Pourquoi voilà. Et si on est des gens rationnels, on est des gens de gauche, donc on est des gens rationnels. Hein. On croit pas au Père Noël. Comment on pourrait avoir ce genre de choses? Et dans ce milieu, il y a un personnage qui existe depuis un certain nombre d'années auparavant, qui est en fait un type qui a créé une librairie à Paris qui s'appelle La Vieille Taupe, qui est une librairie donc à la fois libertaire, conseilliste, etc., qui va jouer un rôle d'ailleurs assez important en 1968, hein, dans les événements de 1968. Et ce Pierre Guillaume va devenir, à partir du début des années 70, un soutien de plus en plus radical, de plus en plus déterminé aux idées de révision, de révisionnisme et de négationnisme. Alors pourquoi? Parce que il va expliquer qu'il a lu les livres de Paul Racinier, qu'il va découvrir chez Paul Racinier des choses qui vont, de son point de vue, relancer la révolution, remettre en cause le consensus post-68, hein, grande déception, hein, évidemment, pour les gens qui ont participé à 68, hein, grande période de déprime, etc. Les prolétaires ont trahi quand même, puisqu'ils ont repris le travail, etc. On n'a pas fait la révolution et tout ça, donc, donc recherchons un nouveau moteur, finalement, pour la révolution et pour le changement social. On ne peut pas évidemment s'appuyer sur le Parti communiste qui sont des affreux stalino-traîtres, stalino-socialo-traîtres. Donc essayons de trouver, de conceptualiser autrement l'idée de révolution. Alors qu'est-ce qu'il explique? Il explique un peu comme dans le texte bordiguiste dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une alliance stalino-démocratique. Donc c'est évidemment assez large. C'est-à-dire que finalement, le Parti communiste et les partis démocratiques sont d'accord sur l'essentiel. Et qu'est-ce que ils sont quoi? Enfin, qu'est-ce qui soude finalement leur élément, leur consensus, enfin leur alliance? C'est le nazisme. Hein. C'est-à-dire encore on trouve encore cette idée que l'antinazisme, l'antistalinisme, etc. est l'élément déterminant. Hein, de l'alliance. Bon, évidemment, les partis démocratiques sont anti-nazis, etc., mais effectivement, bon, il y a dans les pays de l'Est un très fort anti-nazisme. Il faut savoir que les juifs qui ont survécu et qui sont retournés en Allemagne de l'Est recevaient une pension, alors non pas comme juifs, hein, c'est ça qui est intéressant, mais comme antifascistes. C'est-à-dire que les juifs qui sont repartis en Allemagne de l'Est, qui étaient souvent des juifs communistes, quand même assez proches du parti communiste, qui sont devenus assez vite, le sont devenus par antifascisme aussi. C'est-à-dire que finalement, bien évidemment, ils étaient juifs et traités en conséquence, etc., mais que fondamentalement, la véritable lutte, hein, parce que ces gens-là ne sont pas sionistes, hein, la véritable lutte essentielle, c'est la lutte contre le fascisme. Hein, et l'Allemagne de l'Ouest est considérée comme un repère de nazis, d'anciens nazis, ce qui est d'ailleurs pas absolument faux, hein, dans les années 60 et 70, de ce point de vue-là. Hein, le vrai pays, la vraie Allemagne antifasciste, c'est la DDR, hein, c'est absolument pas la RF. Deuxième explication, On voit très bien dans les textes de Pierre Guillaume et de ses acolytes que pourquoi s'attaque-t-il à cette question ? C'est parce que il a trouvé le sujet qui va lui causer le plus d'ennuis possible. Hein. Il y a cette idée de radicalité dont je parlais tout à l'heure. Plus on va être attaqué, plus on va être victime, plus on va être honni, plus en fait cela va montrer que l'on est des vrais subversifs, que l'on est révolutionnaire, hein, parce que l'on aura révélé la vérité. Hein, révéler la vérité, c'est quoi ? Comment on sait qu'on révèle la vérité ? C'est quand tout le monde est contre vous. Hein. Bon, bien d'accord que c'est un raisonnement assez paranoïaque, hein, mais c'est un raisonnement qui se tient pour une fille. Hein, c'est un raisonnement, voilà, évidemment. Plus je dis d'horreur, finalement, hein, et plus je montre par là même ma radicalité, et donc je révèle, en fait, le véritable fondement de tout ce qui se tient. Donc ça veut dire que de la gauche à la droite, finalement, tous ces gens-là, ils sont d'accord sur l'essentiel. Hein, et l'essentiel, finalement, de l'essentiel, c'est cette idée de camps d'extermination, de nazis qui sont beaucoup plus abominables que les autres, etc., etc. Troisième élément qui est extrêmement important, c'est que, évidemment, l'antisionisme matiné d'antisémitisme, évidemment, et d'anti-américanisme, hein, il y a une jonction très forte là-dessus, dans les années 60 et dans les années 80, on va voir que ça va être relancé par la guerre du Golfe, évidemment, hein, cet élément de anti-sionisme, anti-américanisme, et donc un peu quand même au bout du bout, un peu antisémitisme quand même, hein, bon, parce que derrière le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a logiquement les juifs, hein, bon, qu'est-ce qu'il y a, bon, en Palestine, etc., bon, donc, ouais, cette idée qu'ils sont un peu de partout, qu'ils sont, voilà, il y a cette idée un peu qui va être relancée très fortement, hein, parce que la gauche est anti-américaine, la gauche est quand même très largement anti-sioniste, il faut le dire globalement quand même. Et donc, finalement, là aussi, on peut être sûr malgré tout d'avoir un certain soutien, hein, même si, évidemment, on va avoir des procès, on va avoir des problèmes, etc. Il y aura quand même, hein, un milieu, pas obligatoirement négationniste, encore une fois, mais qui n'est pas absolument insensible à ça. Finalement, si les Américains et les sionistes mentent, ils peuvent aussi mentir là-dessus. Enfin, voilà, il y a un peu cette idée, un peu globale, qui circule, je crois, dans ces milieux. Encore une fois, dans un certain nombre de milieux, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, Pierre Guillaume aura beaucoup de problèmes aussi assez rapidement avec des gens de la mouvance, hein, de laquelle il vient. On va croire encore une fois que toute l'ultra-gauche est d'accord avec lui, loin s'en faut. L'idée aussi, évidemment, qu'il y a un lien très direct entre l'État d'Israël et la Shoah. Hein, c'est-à-dire que l'existence du génocide, évidemment, justifie d'une certaine façon, hein, l'existence et éventuellement l'action ce qui est remis en cause. Cette question-là, d'ailleurs, étant remise en cause elle-même par des citoyens d'Israël, etc., etc. Donc, c'est pas une critique, si vous voulez, qui est une critique qui est obligatoirement antisémite par rapport à ça. Donc, la question des chambres à gaz devient tout d'un coup un symbole, hein, qui est lié à ces différents éléments dont je parlais tout à l'heure. Il faut citer, par exemple, un autre personnage qui est un personnage aussi important, c'est quelqu'un qui s'appelle Serge Thion, hein, Thion, qui est un chercheur au CNRS, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, mais qui est surtout un tiers-mondiste radical, extrêmement pro-palestinien, hein, donc là aussi... On a cette direction, par exemple, qui va jouer aussi un rôle assez fort. Le Maurice Joyeux, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, va, au moment du procès Barbie aussi, avoir des écrits dans Le Monde Libertaire un peu ambigu, enfin plus qu'un peu ambigu, expliquant que Racinier était un type très bien, etc., qu'on l'a calomnié, etc. Donc on voit bien, hein, la perpétuation un petit petit peu de cet immense. Alors, ce mouvement un peu de gauche et d'extrême gauche, disons, autour du négationnisme et du révisionnisme, va encore prendre plus d'ampleur à partir de la guerre du Golfe, hein, au début des années 90. Hein, parce que là, évidemment, de nouveau, se crée une espèce de point de fixation, on pourrait dire, hein, autour de la question d'Israël, de la Palestine, des Juifs, etc., etc., hein, du tiers-mondiste, etc. Les Palestiniens devenant presque, dans certains milieux, remplaçant presque le prolétariat. Il y a un petit peu, j'exagère un petit peu, hein, mais presque c'est un pays, c'est un peuple opprimé, etc., etc., ce qui est vrai, hein, je dis pas tout ça, je rentre pas dans ces histoires entre Israël et la Palestine, parce que ça c'est encore une autre histoire, mais enfin, on peut pas dire que les Palestiniens vivent une voilà, ils sont dans une situation enviable, loin de là, donc c'est un peuple prolétaire, hein. Donc on retrouve là cette logique de gauche de soutenir finalement les peuples prolétaires, le peuple prolétaire palestinien étant en but évidemment dans l'état présent un impérialisme sioniste, enfin c'est comme ça que c'est vu, et donc on a des clés là, hein, de compréhension, hein, de ces glissements assez forts. Là-dedans, il faut par exemple souligner quelqu'un comme Roger Garaudy. Vous connaissez peut-être Roger Garaudy, aussi c'est un personnage assez extraordinaire, enfin extraordinaire au sens, encore une fois, hein, je marche sur des œufs, au sens, strict du terme, hein. Je ne dis pas qu'il est génial, je dis qu'il est extraordinaire, il sort de l'ordinaire, hein, ce personnage, puisque c'était un des chefs du Parti communiste, jusque dans les années, début des années 60, je crois, il a été exclu, il me semble. C'est même le intellectuel communiste, hein. C'est le directeur des Cahiers du communisme, qui sont la revue théorique, hein, du Parti communiste français, hein. C'est pas un va-nu-pied, hein, ce garçon, hein. Donc personnage extrêmement extrêmement important, qui va rompre avec le Parti communiste, qui va devenir chrétien de gauche, hein, qui va redécouvrir sa foi catholique, qui va ensuite devenir musulman. Pro-palestinisme et antisionisme, hein, très 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 clairement, hein, là-dessus. Et en décembre 1995, il va publier les mythes fondateurs de la politique israélienne, d'ailleurs avec le soutien de la Vieille Taupe dont je parlais tout à l'heure, qui était devenue en fait une maison d'édition, hein, la librairie a fermé ses portes, c'était une maison d'édition. Et dans les mythes fondateurs de la politique israélienne, qu'est-ce qu'il met ? Ben évidemment, il met la fausse Shoah, c'est-à-dire la fausse destruction des Juifs. Des Juifs d'Europe, hein, pour reprendre le bouquin de Hildberg, c'est-à-dire que finalement, s'il y a un État d'Israël, c'est à cause de cette histoire qu'on nous raconte, extermination, et on sait bien que tout ça c'est pas vrai, etc., etc. Roger Garaudy devient un personnage extrêmement important dans toute l'extrême gauche pro-palestinienne. Il fait des tournées triomphales dans les pays arabes. Triomphal, c'est traduit, son bouquin est traduit en arabe, etc. Enfin, c'est vraiment un personnage. Il a des prix, etc., etc. Il sera d'ailleurs condamné. Mais on retrouve exactement, hein, ce personnage, cette idée que les Arabes sont les prolétaires d'aujourd'hui contre les bourgeois qui sont les Juifs. Quoi, finalement, pour simplifier. Un petit peu simplement, hein, on a cet élément. Et alors on retrouve évidemment, je vous le concède, on retrouve aujourd'hui aussi dans tous les mouvements autour de Dieudonné, autour de gens comme Soral, autour de gens, etc., cette conjonction, hein, de gens, bien sûr de gens d'extrême droite, mais aussi de gens de gauche, on pourrait dire. C'est-à-dire de gens qui, par volonté de lutte contre les discriminations, hein, considère que finalement les discriminations réelles, c'est pas comme on nous le dit, les discriminations liées aux Juifs, etc., etc., qui en fait font partie des dominants, on pourrait dire, mais c'est les discriminations envers les vrais dominés, les vrais prolétaires que sont donc les Arabes, les Noirs, etc., etc. Hein, et donc il y a dans évidemment autour de Dieudonné, il y a donc beaucoup de gens, de soutiens, on pourrait dire, d'un personnage comme Dieudonné, des soutiens de gens qui considèrent que par pure idéologie libératrice, anti-impérialiste, etc., etc., on se doit de dénoncer un certain nombre de choses très clairement, même largement dépasser évidemment l'antisionisme, puisque par exemple, bon, ce que l'on trouve par exemple chez Soral sur Internet est carrément antisémite. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé, regardez à l'occasion. Hein, je veux dire, ça fait des trucs en plus hein, pour de vision, etc. Mais enfin, c'est toujours intéressant de savoir quand même ce qui se passe. C'est carrément une dénonciation hein, quand même tout à fait antisémite. On reprend, hein, on republie d'ailleurs les vieux classiques antisémites, etc. Hein, des livres qui ont été écrits avant la création de l'État d'Israël et donc qui ne peuvent pas justifier une critique de l'État d'Israël aujourd'hui, puisque l'État d'Israël n'existait pas dans les années 20, dans les années 1890, etc., etc. Donc voilà, on a, je crois, pour cet ensemble de raisons, ce développement à l'heure actuelle de ce négationnisme dans des milieux qui sont a priori dans la réalité, évidemment, on peut partir du principe qu'à partir du moment où les gens sont antisémites, on les met à l'extrême droite. On peut évidemment automatiquement ce genre de dire ça, mais en même temps, il faut, je crois, tenir compte du fait qu'un certain nombre de gens peuvent à la fois se considérer eux-mêmes comme de gauche et même éventuellement voter à gauche, hein, voter pour des partis de gauche, etc. Et en même temps, soutenir, par exemple, des thèses antisémites que l'on retrouve sur Internet ou ailleurs. Alors, dernier élément, comme j'ai été exceptionnellement rapide et efficace aujourd'hui, je vous dis tout le temps que vous allez avoir du temps pour dialoguer, donc je vais vous en laisser, mais je voudrais juste ajouter un tout petit mot peut-être sur quelqu'un qui est un auteur assez difficile, hein, mais un auteur assez intéressant, qui s'appelle Moïse Poston. Comme son nom indique, il est juif, hein, et qui est en fait donc un prof d'université aux États-Unis aujourd'hui, et qui a essayé d'expliquer, alors d'un point de vue assez marxiste, hein, alors c'est ça qui est intéressant, pourquoi finalement on a cette espèce d'antisémitisme qui peut être aussi bien de gauche et de droite, et qui se développe donc à certains moments de crise, on pourrait dire, où on a le ressurgissement, on peut dire, de cette idée que finalement le capitalisme, c'est les juifs, on peut dire, en tout cas le pire capitalisme, on peut dire que c'est les juifs, et le pire gouvernement, on pourrait dire que c'est les juifs. Alors, il explique ça, je vais essayer de l'expliquer assez simplement. Mais c'est pas très facile parce que c'est quand même de la haute théorie. Il part de l'idée que contrairement à ce que l'on dit souvent, l'antisémitisme, c'est pas un racisme comme les autres. Hein. Pourquoi ? Bah parce que le racisme, en général, s'adresse à des inférieurs. Hein. Ce sont des gens qui sont en dessous de vous et qui, de votre point de vue, risquent de vous causer des ennuis. Hein. On pourrait dire que ce sont des sous-hommes qui risquent de venir vous envahir, vous voler, etc., etc. Hein. Bon. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il y a un racisme anti-blanc, etc., mais bon. C'est quand même relativement controversé. Il peut y avoir un racisme anti-bourgeois, etc., mais bon, c'est quand même extrêmement limité. Dans le cas de l'antisémitisme, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens qui sont censés être au-dessus de vous. Hein. Pourquoi on n'aime pas les juifs? Bah parce que ce sont des gens qui manipulent, qui ont les leviers, qui dominent. Donc c'est pas la même position, on pourrait dire. C'est déjà des gens qui ont pris le pouvoir. Regardez, on peut dire, le racisme anti-musulman. Le racisme anti-musulman, c'est un racisme qui est basé sur une hiérarchie, c'est-à-dire que les chrétiens sont au-dessus des musulmans, sous-entendu. Hein, vous êtes à peu près d'accord avec moi. Et ce dont on a peur, c'est que, avec les mosquées, etc., ils envahissent peu à peu notre bon pays chrétien, finalement. Hein. Donc c'est l'idée que des sous-hommes vont devenir des surhommes, finalement. Là, les juifs, c'est déjà des surhommes. Hein. C'est déjà des surhommes parce qu'ils sont de partout, parce qu'ils tiennent tout, parce que, etc., etc. Donc c'est un antisémitisme quand même qui est tout à fait particulier. Deuxième élément pour Poston, qui est intéressant d'en expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors évidemment, là derrière, on a l'idée que des gens qui sont au bas de l'échelle sociale peuvent être très facilement antisémites. Hein. Des ouvriers, des gens qui sont évidemment beaucoup plus facile puisque évidemment on a cette lutte de classe qui vient un peu justifier ce racisme anti-supérieur, on pourrait dire. Deuxième élément, évidemment, des choses que l'on a déjà vues, qu'on connaît, c'est l'antisémitisme moderne. L'antisémitisme moderne apparaît à la fin des années 1890, enfin à la fin du 19e siècle, va se développer au début du 20e siècle. C'est un antisémitisme qui s'appuie évidemment sur les anciens antisémitismes, c'est-à-dire religieux, machin, ils ont tué le Messie, machin et tout ça. Mais c'est nouveau parce qu'il y a cette idée que l'on assimile le capitalisme aux juifs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait intéressant. Et surtout, nous dit Poston, l'antisémitisme de gauche s'explique par une dichotomie que l'on peut faire et que les gens font entre le bon capitalisme et le mauvais capitalisme. Ça, c'est un élément qui est important. C'est-à-dire que l'idée que la modernité, qui est portée quand même par le capitalisme, malgré tout, la modernité au sens très large, le commerce, l'amélioration du niveau de vie, etc. Tout ça, c'est quand même l'apport du capitalisme, même s'il y a tout ce que l'on sait, etc. N'empêche que, voilà, c'est lié quand même à tout ça. Donc on a un bon côté, on a la technologie aussi, c'est bien la technologie, la machine à laver, on a le robot qui nettoie tout seul maintenant, et tout ça, donc on a un bon progrès, porté par ce capitalisme, etc. Mais en même temps, on a cette idée que l'on a un mauvais capitalisme. C'est-à-dire, alors Poston explique que tout ça c'est du fantasme, c'est du fétichisme. C'est-à-dire que, évidemment, ces deux capitalismes sont très difficiles à séparer. Est-ce qu'on peut avoir une société de consommation sans banquier à Wall Street, etc. Bon, c'est quand même extrêmement, extrêmement sujet à caution. Mais dans toute une partie de la gauche, il y a toujours cette idée que l'on peut sauver la modernité, et on l'a vu chez Proudhon, par exemple, avec l'idée qu'il faudrait s'organiser entre producteurs. On peut retrouver ça chez les Saint-Simoniens, l'idée d'une grande usine, mais où tout le monde est bien payé, où tout le monde vit bien, dans ces espèces de mythologie d'un capitalisme qui serait un peu idéal, etc., etc. Et donc Poston explique qu'effectivement c'est ce fétiche finalement de la marchandise, où on aimerait bien finalement avoir toutes les marchandises que l'on utilise aujourd'hui, que l'on a à notre disposition, mais en même temps on ne voudrait pas du tout le système d'exploitation, le système d'inégalité, qui va avec finalement, et que l'on peut difficilement imaginer n'allant pas avec. Donc c'est l'idée aussi que l'on a un bon, capitaliste qui produit des choses, et puis un mauvais capitaliste qui produit simplement de la spéculation, etc. etc. Bon. Là aussi, est-ce que l'on est sûr, au-delà du fantasme, que l'on peut séparer les deux, hein? On voit que M. Montebourg essaye de, désespérément, hein, de sauver le bon grain de l'ivraie, mais il y a quand même un petit peu des problèmes quand même, hein, parce que tout de suite on a besoin quand même d'un certain nombre de financements, on a besoin quand même de beaucoup d'argent pour pouvoir renflouer ces entreprises, on a, etc., etc. Donc, bon, enfin, pour Poston en tout cas, il considère que ce n'est pas possible, hein, d'opposer, mais que dans la gauche, il y a une tendance, hein, à opposer ces deux éléments. Et alors, pourquoi, évidemment, ces juifs, ça tombe sur ces juifs, on pourrait dire, hein, parce que, finalement, premièrement, il y a quand même la longue histoire, hein, d'antisémitisme un peu traditionnel, c'est-à-dire le fait que le juif est lié à l'argent, etc., qui finalement est dans la tête des gens depuis extrêmement longtemps, hein. Alors ça, tous les bouquins, si vous voulez, sur pro-antisémitisme, commencent par une longue litanie, hein, de citations antisémites depuis les origines. Hein, c'est-à-dire que vous avez chez Saint-Augustin, je ne sais pas, mais enfin vous avez chez Luther par exemple, hein, vous avez chez Calvin, vous avez chez plein de pères de l'Église, vous avez des trucs contre les Juifs. Hein, alors ça, il y en a de partout, des déclarations d'empereurs, de rois. Alors ça, il n'y a aucune difficulté pour avoir tout ça, pour montrer que les Juifs vraiment sont des méchants et que c'est à cause d'eux qu'on est pauvres et tout, etc. Donc il y a cette longue idée que finalement juif égale. Et évidemment, logiquement, quand on a cette idée que l'on va avoir les bons et les mauvais, bah, logiquement, on va se tourner vers ceux que l'on assimile logiquement à l'argent. Le deuxième élément explique Poston, et c'est très paradoxal, c'est que le 19e siècle, c'est une époque extraordinaire d'émancipation des juifs. C'est-à-dire d'émancipation des juifs au sens où les juifs commencent totalement à s'intégrer, on pourrait dire, dans la société. Hein. C'est paradoxal parce que c'est au moment finalement où les gens vont complètement s'intégrer, hein, où par exemple les pratiques religieuses vont énormément reculer, etc. Hein, et donc il va y avoir une espèce de lente assimilation, aussi bien chez les bourgeois d'ailleurs que chez les ouvriers, etc. Hein, il y a tout ce mouvement-là. Les juifs deviennent de plus en plus visibles. On les voit dans l'université, évidemment, parce qu'ils commencent à rentrer dans l'université, ils deviennent professeurs, ils deviennent journalistes, parce que finalement ils s'intègrent, alors qu'ils étaient souvent, avant le 19e siècle, effectivement limités à quelques métiers, à quelques pratiques, etc. Ils deviennent des gens finalement comme les autres. Alors, et finalement, évidemment, on les voit, hein, et on les voit un peu de partout, par définition, puisque logiquement, on va les retrouver un peu dans le commerce, on va les retrouver un peu dans la grande industrie, on va les retrouver un peu dans la banque, on va les retrouver aussi chez les ouvriers dans les pays de l'Est, on va les retrouver, etc., etc. Donc, c'est cette époque qui explique où on a une émancipation qui est importante. Et puis, le dernier élément, nous dit Poston, il peut expliquer pourquoi finalement on va avoir une centralisation de critique du capitalisme autour de la question juive, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le citoyen et la personne, hein, c'est-à-dire le fait que on a beau dire tout ce qu'on veut sur la citoyenneté, la Révolution française, etc., la citoyenneté c'est une citoyenneté nationale, et donc les questions de racines, les questions d'identité nationale, les questions de rapport à la terre, les questions de rapport à la langue, les questions de rapport aux coutumes, les questions de rapport à la religion, malgré tout, n'ont pas été, contrairement à ce qu'on croit, totalement évacuées. La preuve, comme vous le voyez, hein, l'idée chez certains de considérer que le christianisme est un des fondements de la construction européenne. C'est-à-dire qu'il faut un fondement à une citoyenneté. Une citoyenneté, ça ne peut pas être un rapport abstrait à une idée universelle, mais ça doit être lié par une langue. Il faut qu'on parle tous la même langue. Il faut qu'on ait tous les mêmes coutumes. Il faut qu'on ait tous la même religion, etc., etc. Donc, il y a une très grande ambiguïté par rapport aux questions de la citoyenneté. Et alors, évidemment, dans ce schéma, la question de l'assimilation, évidemment, des Juifs est problématique parce que ils n'ont pas la même religion. Bon, ils ont en général la même langue, mais ils n'ont pas la même religion. Et on peut toujours leur reprocher de ne pas être vraiment totalement des gens du terroir, on pourrait dire, des gens vraiment du cru, qui étaient là depuis les Gaulois, etc. etc. Évidemment, les autres non plus, y compris moi, et sans doute beaucoup d'entre vous n'étaient pas là au moment des Gaulois, bien évidemment. Mais bon, on a quand même à peu près la même religion, enfin, sauf les nouveaux qui sont arrivés, qui ne sont pas Gaulois et qui en plus n'ont pas leur même religion, je parle des musulmans. Et d'ailleurs, on voit que ça crée aussi un certain nombre de problèmes quand même. On voit bien qu'il y a quand même ce rapport à la nation qui peut être problématisé, on pourrait dire, qui peut être considéré comme problématique chez des gens pour qui précisément se pose une question. J'en reviens tout à l'heure, une idée de révolution, une idée de transformation sociale, de justice sociale, etc., etc. Où finalement, ce qui apparaît, c'est l'existence d'une population qui est pas en bas de l'échelle, qui est pas d'ailleurs très très haut non plus obligatoirement, mais qui est quand même qui a un certain statut et qui peut donc être accusé, on pourrait dire, de tous les maux à certains moments. Voilà. Donc c'est les idées que j'ai essayé de simplifier, parce qu'après il part de la marchandise chez Marx, de valeur d'usage, valeur abstraite, valorisation, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai essayé un peu de simplifier, de vous présenter les textes de la thèse de Moïse Poste. Voilà. Donc voilà, je me félicite parce que je vais vous laisser une demi-heure de discussion. Ah.